Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30 et plus si affinité. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième dimanche du mois d'octobre et nous recevons notre motarde en or, Papate. Bonjour Papate.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
T'as l'air tout ému de nous de retrouver les nos auditeurs.
Il y a longtemps. Et donc, effectivement, on se retrouve pour l'actualité des motos et clubs et associations motardes.
Et donc, tu n'es pas venu seul aujourd'hui, tu es venu avec ton acolyte, Eric.
Et merci de faire attention quand tu dis acolyte, effectivement.
Vous avez préparé cette émission ensemble?
Ah bon, oui, c'est vrai. J'avais l'impression un sentiment de solitude parfois. Non, non, bien épaulé avec les invités qu'Eric va pouvoir nous présenter.
Ouais, d'ailleurs. Alors les invités, le premier invité, c'est qui?
En fait, le premier invité, ça va être Quentin, notre explorateur en moto qu'on connaît depuis bien longtemps déjà et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il prévoit de faire des explorations un peu énormes là, à l'avenir, dans peu de temps. Il faut qu'il se prépare pour ça. On va aussi avoir le plaisir d'avoir Louis Guy des Caïmans qui va nous parler des Caïmans et de ce qu'il prévoit de faire aussi, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que c'est des grands voyageurs aussi. Hein. Tu sais, quand le QG se trouve dans un endroit qui s'appelle le Tour du Monde, forcément, on est des voyageurs. Et après, on refera un petit tour avec Quentin pour vous parler d'un explorateur hyper historique qui est Robert Sexé, qui a été le premier à faire le Tour du Monde en moto. Donc, il a fait plein de choses aussi autour de ça, donc on aura l'occasion de vous parler de lui. Et puis peut-être après, dans d'autres émissions, de parler d'autres explorateurs historiques comme ça. On verra, ce sera peut-être l'occasion de démarrer une série.
Ok, et on aura aussi des invités par téléphone.
Oui, parce qu'on a placé cette émission sous de bons augures, relance d'activité. On y croit et on s'enthousiasme. Et donc, effectivement, on va vous faire part de ce qu'on a pu repérer en grand et plus modeste événement. On parle du nombre de personnes que ça peut intéresser. Et donc, en tout premier lieu, on va parler de la 42e édition du salon Époque Auto. Mais
à
pas
Lyon.
Que auto.
Ils vont mettre le paquet sur la moto cette année. Ouais.
Tout à fait. Et donc, on aura Fabrice Folis, qui est le responsable du plateau moto, pour nous en donner tous les détails.
D'accord. On aura aussi des motoclubs locaux qui vont aussi intervenir par téléphone.
Voilà, on va parler de ce qui se passe dans la région. Et il y a deux rendez-vous, fin octobre, à Wincourt dans la Somme, et le 7 novembre à Le Quesnoy.
Pour le Téléthon, c'est ça?
Voilà.
Ok, c'est un beau programme. Hein. On va dire bonjour à Laurent, hein, qui assure la technique et la programmation musicale. Bonjour Laurent. Down that long highway, Vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, et nous allons tout de suite retrouver Fabrice Folis, le responsable en charge de l'organisation du Salon de Lyon.
Oui, bonjour.
Bonjour Fabrice. Oui, donc tu vas pouvoir nous présenter cette 42e édition du Salon Époque Auto, mais pas que auto. Et cette édition est annoncée comme historique. Et on voudrait savoir justement, parce que dans les communiqués de presse, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les motos et la place de la moto dans ce salon qui est très grand, à vrai dire.
Absolument, c'est un salon qui fait aux alentours de 70 000 m² pour les gens qui ne connaissent pas Eurexpo. On occupe le hall 4, 5, 6, 7 et la moto se trouve dans le hall 6. Alors la moto sur le salon Époque Auto, l'historique, je vais essayer d'aller assez vite. Époque Auto, c'est le salon qui a été créé par le club des 3A. Le club des 3A, pour aller vite, c'est c'était le fondateur du musée automobile Roche-Taillé à Lyon, qui est magnifique. Et donc, ils ont décidé un jour de démarrer ce salon. Aujourd'hui, on est à la 42e année. C'était essentiellement voiture, mais pas que. Et la moto, aujourd'hui, devient importante dans les salons. Il y a un engouement, il y a beaucoup de rénovation. Donc, j'ai décidé de prendre un petit peu le manche. Ils m'ont invité étant de la moto, je vous expliquerai pourquoi plus tard. J'ai décidé de prendre le manche et de faire une expo plutôt exceptionnelle. On va dire une centaine de motos sur 600 m² dans le hall 6. Et on va faire de la moto d'avant-guerre. Alors, ce qu'on appelle la moto d'avant-guerre, c'est en fait entre les deux guerres. Avant la guerre de 14-18, c'est ce qu'on appelle les ancêtres, comme en voiture. On appelle avant-guerre, avant la guerre, 39-40. Donc, ça veut dire que c'est des motos pour les gens qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas de fourche télescopique, c'est-à-dire que tout est mécanique. Et c'est pour moi une période où il y a eu énormément de marques, pas qu'en France, mais en Europe, même dans le monde. Et c'est une période où tout est ouvert, où la mécanique est magnifique. C'est des mécaniques simples. Et donc, j'ai voulu mettre l'accent là-dessus.
Et en me documentant un petit peu, justement, sur le sujet, j'étais vraiment très étonnée de l'inventivité de l'époque au niveau mécanique. Et aussi des modèles en fin de compte, des innovations techniques qui servaient qui étaient reprises et qui étaient copiées quasiment pour certains constructeurs.
Absolument. Il est vrai qu'aujourd'hui, après 60, grosso modo, après 50, il se passe pas grand chose, mais après 60, on modernise tout ce qu'on sait, mais tout ce qui, en matière de mécanique, a été inventé, c'est fait. Les guerres sont malheureusement destructrices, mais en matière mécanique, on peut le voir avec un peu d'histoire, les guerres sont dynamisantes. C'est-à-dire que les gens sont au boulot, et puis on a plein d'idées, on a envie de tout, il n'y a pas de règles. Et c'est vrai que c'est une période très riche en matière mécanique, les mécaniques sont belles. On connaît le chrome, on connaît des machines dont les moteurs sont très puissants. On n'a pas de pneus, on n'a pas de freins, donc c'est des vrais pilotes de moto, les gens qui courent avec ces machines. On aura un pôle d'ailleurs destiné qu'à la course, on aura un pôle un petit peu sidecar, et puis on a un petit peu militaire, mais pas trop, pour quand même expliquer que les périodes militaires, les constructeurs fabriquent, pas tous, mais certains. Et en fait, c'est vrai, tu l'as dit, c'est une période très riche en innovation mécanique, absolument.
Donc, au niveau des motos, de quel modèle voudrais-tu nous parler qui pourrait vraiment attirer le visiteur?
Absolument. Pour représenter, on a des modèles prestigieux. On n'a pas loin de. J'en cherche encore, on m'appelle encore tous les jours parce que les gens ont compris que ça allait être un très beau salon. Là, tout de suite, vite fait, bien fait, on a plus d'une trentaine de marques présentes. J'ai été m'enrichir et j'ai fait un peu mon marché dans les plus beaux musées, dont Roche-Taillé d'ailleurs, qui est aussi partenaire, hein, évidemment, on leur prend, ils nous prêtent une dizaine de motos, toutes plus belles les unes que les autres.
Il y a le musée Baster, exactement,
le musée de Guy Baster à Rion, à côté de Clermont, qui est un musée magnifique. C'est aussi un ami et c'est quelqu'un qui a vraiment une passion pour la moto et qui a de très très belles machines. D'ailleurs, on va exposer une très belle Brouffe supérieure. C'est une machine rare, des machines anglaises, la moto de Laurence d'Arabie, hein, du film, du militaire. On en a une, lui en a une. Il a aussi une moto de la marque Train. C'est des machines qui sont très rares. Il y en a très peu en France. C'était français.
Machine unique aussi, il y a la Simca Civitam.
Civitam, exactement. Alors là c'est pareil, c'est une belle histoire. C'est une. Alors le lien en fait s'est fait par Simca, parce que la Civitam en fait a été fabriquée par les usines Simca.
À Nanterre.
Simca, voilà, à Nanterre. Simca sera présent. On n'a pas loin de 80 véhicules sur le salon. Dans le hall 4 et 5, donc c'est une belle expo. Et on a voulu mettre l'accent là-dessus, et on savait où se trouvait une de ces motos. Il y en a eu très peu de construites. Elle est en parfait état. C'est une machine à voir. Elle est particulière parce que c'était une moto amphibie. Le moteur, en deux mots, est monté à l'envers, c'est-à-dire que le vilebrequin est en haut, et ça lui permet en fait sur l'arbre de transmission, ça permettait de mettre une hélice. Donc c'est une machine qui est exceptionnelle. Donc elle sera présente sur le salon, absolument.
Et cette année, il y a toujours la bourse aux pièces. Est-ce que ça concerne aussi les motos?
Bien sûr. Absolument, il y a la bourse, il y a une bourse aux pièces, il y a des marchands, des fabricants de pièces. On a des clubs. Alors, je ne vous cacherai pas que cette année, l'année charnière du Covid a été compliquée. Nous, c'est exactement le salon qu'on devait faire l'année dernière. On est resté sur la même position, une année 2020 vide. On a reconstruit le 2021 avec encore plus de belles choses. Et on va faire un très beau salon. Après, il manque quelques clubs. Ils ne se sont pas vus pendant le Covid. Alors, ce n'est pas qu'ils n'existent plus, mais il est vrai qu'il y a quelques clubs de moto qui vont être absents, qui voulaient voir comment que ça allait se passer. Ils vont venir, mais du coup, on a pu étoffer un petit peu les autres parce qu'on manquait énormément de place l'année dernière déjà. Donc, on a étoffé un petit peu les clubs qui vont faire des belles expositions, les clubs présents, les plus belles marques prestigieuses. Et puis, l'année prochaine, on reprendra certainement une année normale avec moins de morosité. Mais on va faire un très beau salon.
Donc, c'est sur 3 jours, Fabrice
C'est 3 jours, ouais. Exactement. Donc, le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7. Alors, on a évidemment tout un tas d'animations sur le salon. Nous, on va quand même fêter, pour la partie moto, on va quand même fêter 2 choses exceptionnelles. Alors, la moto Simca, c'est Vitam, évidemment. Mais on a aussi le centenaire de la marque Viratel. La marque Viratel, on en aura une dans l'entrée, puisque le salon à l'entrée reçoit aussi une partie du musée de Rochetaillé. Et eux en avaient une. C'est une moto qui a été fabriquée en 1921 à Villeurbanne. La marque venait de Paris et ils ont fabriqué les premières machines. Donc Viratel, ils auraient fabriqué les premières machines à Villeurbanne. Et puis on a une deuxième chose exceptionnelle. Écoutez, c'est un coup de chance parce qu'on en cherchait un. Il était très très difficile à trouver. On sait que maintenant que le premier scooter français à 100 ans, c'était un Monet Goyon. C'est eux qui ont fait le premier scooter français, hein, j'entends. Il s'appelle le Véloto. Et on en aura un, je le sais depuis 2 heures, donc je suis assez content parce que on avait quand même 2 petites dates anniversaires. Donc on en aura un présent sur le salon. C'est une machine très spéciale, elle est très très belle. Et on a un collectionneur qui était en train d'en remonter un et qui l'a fini. Machine exceptionnelle aussi. Donc 2 anniversaires, 2 centenaires.
Fabrice, on te propose de te retrouver juste après la pause musicale. Et puis on continue à échanger sur la moto.
With his pockets full, singing, I'm headed for Chicago. name Maceo. Make me a pallet on its floor. See that train rolling by.
Morceau de musique sympa pour se réveiller tranquillement le dimanche matin, ça met la patate, hein, papate. Alors on va retrouver tout de suite notre ami Fabrice Folis depuis Lyon. T'es toujours avec nous ?
Oui, absolument, oui, bien sûr.
Et la passion de la moto qui se perpétue de génération en génération, Fabrice, dans la famille.
Oui. Une histoire familiale.
Oui, absolument, c'est une histoire familiale, comme beaucoup de fabricants lyonnais, hein, puisqu'on sait que le berceau rhodanien, au début du siècle, c'est vraiment le cœur de la construction, une part automobile, mais surtout motocycliste et cyclomoteur, le vélo avec Saint-Étienne évidemment aussi. Jusqu'en Savoie, où on sait qu'on avait la plus grosse part française des fabricants.
À Saint-Étienne, on disait que c'était le Coventry français.
Exactement. De nombreuses marques lyonnaises, en fait, ça fait toute une bande, hein, qui part jusqu'à Grenoble, où on trouve aussi de belles industries dans la moto. L'histoire est assez belle. J'ai mon arrière-grand-père, qui s'appelait Joseph, qui arrive du nord de l'Italie, pour travailler en France. Il fuit Mussolini et il est fabricant déjà de cartes de vélo chez Fiat à Turin, donc on est déjà dans le vélo. Il crée sa marque en 1903, son fils François le rejoint. Là, très vite, ils produisent des bicyclettes de bonne qualité. Et pour aller vite, dans les années 50, de 49 à 60, la guerre d'Algérie va nous éteindre. Mon grand-père François construit des motos, les motos Folis. Donc c'est des machines qui sont épurées, qui sont simples. C'est des machines pour aller au boulot, c'est des machines qui s'adressent aussi aux femmes. cyclomoteur, vélomoteur, donc vélomoteur jusqu'à 125 cm3 et 250 cm3. On fabrique pas de moteur. On est vraiment des fabricants de cadres comme dans le cycle. Et jusqu'en 60, donc on va parallèlement au vélo, hein, le vélo s'est pas arrêté, on a plus de 100 ans de vélo. Donc c'est 4 générations, dont je suis la dernière. Mon père Joseph, donc fils de François, François a 2 fils, et mon père Joseph fera même des cartes, des voitures, deux voitures de course qu'on a toujours. Et ce qui nous a conduit donc à fabriquer 10 ans de moto avec une usine très moderne par rapport aux autres, puisque l'usine venait d'être fabriquée au bout du jour. Et on a fini en 58-60 comme étant le 4e fabricant français en matière de volume de machines. Donc il y avait Peugeot, Moto Bécane, Terreau et Folis et tous les autres. Et donc on arrête la moto en 60 et on continue le vélo et tout un tas d'autres choses jusqu'en 2011 où la marque, en fait, la marque Folis, on met fin à la fabrication de cycles. C'est toute une famille qui travaille toujours au service du cycle. On a été énormément connu pour la moto parce que pendant la période motocyclette, on a 3500 agents en France. C'est une progression très rapide, il y a une demande. Et malheureusement, guerre d'Algérie, les jeunes sont appelés. Et en rentrant de la guerre d'Algérie, bah, tous les fabricants français, comme on le sait tous, fabriquent des petites voitures. Et les jeunes ont envie d'acheter une petite voiture pour sortir leur copine le samedi soir plutôt qu'une moto. Donc c'est une des raisons pour laquelle en 60 la moto disparaît en France. Il reste plus que quelques marques, mais on sait bien, on connaît l'histoire ensuite de la moto en France. C'est vrai que les fabricants français d'automobiles n'ont jamais vraiment aimé la moto. Ouais,
encore moins aujourd'hui. Hein.
Et encore moins aujourd'hui. Ils ont toujours tout fait, mais on s'accroche, on est toujours présent. Exactement.
Tu mettais quoi comme moteur sur tes motos?
Alors, ça se faisait, ça se passait, c'était simple. Hein. Folis, il était présent sur un salon. Et puis sur un salon, il y a des marchands de moteurs, il y a des Sach, il y a Hydral français, donc Sach allemand, Hydral français. Il y a des Nyomron, avec qui on avait vraiment qui étaient aussi fabricants de motos. Alors Nyomron, l'histoire est sympa. On leur achetait des moteurs et on leur fabriquait aussi des cadres. Et on mettait des moteurs NSU. NSU, on leur fabriquait aussi des cadres et ils nous vendaient des moteurs. Donc c'était vraiment un échange de bons procédés. La concurrence n'était pas... Nous, Folis, on a toujours fabriqué pour des gens sans mettre notre marque. C'est-à-dire que nous, on était vraiment des constructeurs de cadres. Après, ce sont des accessoires. C'est-à-dire qu'on achète des garde-boue, on achète des guidons, des poignées, on achète des moteurs. Donc, il rencontrait quelqu'un en cyclomoteur, comme les moteurs VAP ou les petits Mistral. Et il rencontrait quelqu'un. Bonjour, monsieur Folis. J'ai des beaux moteurs qui marchent bien. Bon, mettez-moi 3000. Et puis, c'était parti. Il y avait une série qui sortait avec 3000 moteurs pendant 2 ans. Et les choses se faisaient comme ça, simplement. Nous, on adaptait simplement le moteur. C'était pas compliqué. On l'adaptait sur un cadre. Et puis, c'était parti. Ça fonctionnait bien.
Et t'as jamais travaillé avec Kohler Escoffier?
Non, Kohler, non, Kohler, c'est des très belles motos, c'est des belles machines. Alors voilà, l'exemple phare, c'est que c'est celui qui était capable, comme Terreau, de fabriquer son cadre et son moteur. Il y a une très 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 belle marque française, donc qui vont être représentées au salon, qui ont fabriqué moteur et cadre, et c'est vrai que ça fait de belles machines. Alors, je vous cache pas qu'en 60, on n'était pas loin, on s'était rapproché de Nyomron, et on n'était pas loin de faire un moteur Folis, en fait. Il y a des plans qui traînent, il y a 2-3 petites choses qui sont présentes dans le futur musée que je suis en train de mettre en place. Et c'est vrai qu'on n'était pas loin de faire un moteur parce qu'on avait envie de produire des machines intégralement faites chez nous, quoi.
Et le musée, on pourra le visiter bientôt, ton musée Folis.
Dans quelques années sur le site de Saint-Pierre-la-Palue, on est depuis 20 ans dans l'Ouest lyonnais où on organise tous les mois les rendez-vous mécaniques. En mémoire de mon papa qui est parti, on y a bossé ici, on a fait des vélos sur ce site. Les gens ne le savent pas, c'est dans des anciens locaux d'une ancienne mine dans l'Ouest lyonnais. On y travaille depuis 74 et en fait j'organise tous les mois les rendez-vous mécaniques. C'est un rassemblement de vieilles motos et de vieilles voitures de plus de 40 ans, éphémère, un matin, une petite buvette. Il y a une ambiance extraordinaire. C'est demain d'ailleurs, c'est demain pour les gens qui écoutent, qui peuvent passer, c'est ouvert, c'est libre. Il suffit d'avoir un véhicule de plus de 40 ans et vous pouvez monter, vous garer en haut. Sinon, vous restez en bas et on monte par un escalier. Voilà, une belle manifestation.
Super. Pour ceux que ça intéresse, on en parlait hors antenne, il y a un livre qui s'appelle La grande aventure de la moto en Rhône-Alpes, qui a été rédigé par Anthony Pinto et Hervé Dreux. Et d'ailleurs, ils seront présents sur le salon, je crois.
Alors Anthony, peut-être pas, je les reçois sur le stand Motofolis parce que c'est devenu deux amis. Ils ont fait des recherches exceptionnelles. Ils ont été chez tout le monde, chez tous les fabricants. Ils ont rencontré Hydral, ils ont rencontré tout le monde.
Ils ont fait deux ans de recherche pour écrire le livre.
Deux ans de recherche, ouais. Alors il publie, Anthony, donc c'est un très bon écrivain. Et Hervé, lui, il fait plutôt la mise en page et les aquarelles. C'est un illustrateur très sympathique. Et ils sont venus, ils m'ont appelé un jour, ils m'ont dit voilà, on arrive sur la marque Folies. Ils prenaient les marques dans l'ordre et ils ont rassemblé cette manne de fabricants avec des recherches exceptionnelles. Ils se sont fait aider d'un type que j'adore qui sera présent sur le salon aussi, Didier Maistre, qui est vraiment un historien dans la région. Il habite dans le 38 et qui les a aidés aussi beaucoup parce qu'il fait des recherches approfondies. Et ils m'aident beaucoup aussi pour l'implantation de mon salon cette année. Et j'ai beaucoup de plaisir à les accueillir. Donc il aura ses bouquins, évidemment, puisqu'ils ont fait un livre ensemble, donc il n'a pas fait que ça, il en a fait sur l'aviation, ils ont fait plusieurs choses. Mais c'est vrai que c'est vraiment aujourd'hui un bouquin intéressant pour connaître les marques, on va dire, Rhône-Alpes de l'époque.
Eh ben écoute, tu nous donnes envie d'aller au salon, hein. Franchement.
Absolument. Donc c'est une très belle balade.
Le 5, 6 et 7 novembre.
Le 5, 6 et 7 novembre, voilà.
À Euro Expo à Lyon. Et c'est 15 euros l'entrée?
Et c'est 15 euros l'entrée, absolument.
Bah écoute, voilà, moi j'ai envie d'y aller. Papa, tu viens aussi?
Effectivement, ça donne envie. Et rien qu'en préparant le sujet, il y a une mine d'informations, il y a plein de choses à découvrir.
Et notamment pour les amoureux de...
Il y a beaucoup de gens à rencontrer. Je vous ai une petite anecdote. J'ai préparé un petit stand, comme un stand d'une quarantaine de mètres carrés, où j'accueille en fait tous les gens qui m'amènent des motos, mais qui sont parfois un petit peu perdus dans les salons, qui n'ont pas de club. Et ces gens qui font la démarche de m'apporter des motos, c'est plus une famille que l'automobile, je pense, parce que ils sont contents d'avoir rénové une machine, de l'amener. Et c'est ces gens, c'est particulier. J'ai pas que des gros collectionneurs. Les musées, c'est très bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui chargent leur moto, viennent, je les accueille, je m'en occupe et je leur ai fait un petit coin, pas loin du stand Motofolis. On est présent depuis toujours. On avait eu, c'est là que j'ai vraiment mis un pied dans ce club des 3A, qui est quand même un magnifique club de l'automobile et de la moto ancienne. Et on a eu, nous, le plateau en 2016. Donc j'avais exposé les 350 mètres carrés de plateau où j'avais réuni tout ce qui s'est fait chez Folies depuis 100 ans. Et depuis, on est resté liés. Et j'ai pris le département moto parce que je suis dans la moto, j'ai eu un très bon réseau et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir tous ces gens qui parfois rénovent des motos dans un salon. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin pour faire une moto d'avoir 200 mètres carrés. Ils font ça dans des petits espaces. Ça coûte un peu d'argent, mais ça va plus vite qu'une voiture. Et une voiture, on dit grosso modo que pour rénover une voiture, il faut trois fois l'espace de l'automobile.
C'est vrai, nous-mêmes, on a un petit local pour retaper les motos de la Miche, mais bon, on pourrait en parler pendant longtemps.
Et la moto, vous pouvez la faire dans votre salon presque l'hiver. Hein. Alors, je vais vous dire, et moi qui suis en relation avec, il y a énormément de gens qui ont retapé pendant le Covid, qui ont eu du temps. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir, je le sens parce qu'on m'appelle, et je prends que de l'avant-guerre, hein. L'année prochaine on fera autre chose, on a déjà 2-3 idées, 2-3 infos, on pense le centenaire Moto Guzzi qui se faisait cette année, et puis peut-être dans 2 ans BMW. Bon,
mais on te rappellera.
Sur des belles années dans la moto.
Voilà, on te rappellera comme ça pour que tu puisses nous en parler.
Mais n'hésitez pas, et je vous attends sur le salon, venez me voir,
okay, on arrive.
On a toujours un petit verre de blanc.
Super, on arrive. Allez, à bientôt.
À bientôt, Fabrice.
Merci, très bientôt. Bonne fin de journée, merci.
Ciao.
Well, a hurricane is on its way across the Bible Belt.
Pour ceux qui ne savent pas, on est bien sur Radio Campus, Kikinkou, le magazine de la moto. Et on va rester dans la moto ancienne avec Quentin, l'explorateur à moto qui sillonne la région Hauts-de-France sur une vieille moto. Il va nous en parler tout de suite. Bonjour Quentin.
Oui, bonjour. Bonjour, oui, bah alors pour la vieille moto, avant je...
Parle dans le micro.
Ouais.
Vas-y, vas-y.
C'est bon là, on m'entend ?
Ouais, tu parles dans le micro.
Ouais, bah alors bonjour. Oui, bah... Sillonner les Hauts-de-France en moto, je le faisais pas mal avant, puis il y a eu le Covid bon, qui a fait que je suis resté confiné chez moi pendant un long moment.
Puis, et ça t'a donné l'occasion de la sticker, de la rénover, de la...
Bah, alors entre-temps, il y a eu deux motos, tu vois.
Allez.
Il y a eu une super moto anglaise que j'ai bien astiquée. Vraiment, la moto anglaise, tu vois, elle était très très belle, avec laquelle je suis parti en Espagne.
Ah, vous vous souvenez, hein, il avait fait raconter son trip dans les déserts espagnols.
Ouais, ouais, ouais.
Et avec sa BSA.
Avec des problèmes, je crois, c'est ça.
Ouais, où il avait tout perdu, tout récupéré. Bref.
Tu l'as jeté en revenant, je crois, c'est ça.
Oui, je me suis débarrassé. En fait, les motos anglaises, ce sont des très belles motos. Elles sont juste très belles. C'est confortable aussi quand tu veux la pousser, tu vois. Mais
il y a des malheureux qui en ont fait l'expérience ici, Kikaku.
Oui, mais en fait,
des expériences célèbres.
C'est pas une légende de dire que les motos anglaises tombent en panne. Non, c'est un fait. Ça tombe en panne.
C'est un vrai constat qu'on peut faire quand on roule avec, quand on essaie de rouler avec une moto.
C'est pour les amateurs de mécanique.
Ouais, plutôt amateur, tu vois, d'œuvres d'art. Les BSA, je trouve, c'est des motos très jolies.
Bon, pour éviter de se mettre plein de gens sur le dos,
fais gaffe.
Donc, en fait, les BSA sont des motos néanmoins géniales, mais qui ne sont pas forcément faites pour faire de l'exploration à distance dans les déserts. Et du coup, tu nous as revendu la moto et tu nous en as acheté une autre. Enfin, tu t'en es acheté une autre, surtout plus qu'à nous. Et une moto très particulière, donc une Ish, dont tu avais parlé. Alors, Ish, ça se prononce facilement, ça ne s'écrit pas, en fait.
Donc, ça s'écrit en cyrillique, alors.
Voilà, parce que c'est une moto russe, hein, c'est ça.
Ça vient de. Alors, soviétique, du coup, à l'époque.
Oula, excuse-moi, de ne pas faire la différence.
Elle est de 1960, mais en vrai, j'ai acheté parce que j'avais vraiment plus du tout d'économie à cause de la BSA.
J'ai été bradée.
Non, mais ce sont des motos de ces années-là que tu trouves pour moins de 1000 euros. Ce sont des 350 cm3 de temps.
Ce qui est magique, hein, en bon état. Hein.
En très bon état, oui.
Mais moi, tu l'as trouvé où? En Russie aussi?
Non, pas celle-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle était à Barcelone.
Ah ouais.
Du coup, j'étais retourné en Espagne en voiture pour aller la chercher. Le gars voulait en faire un bobber. J'ai dit non, moi je veux la garder d'origine. Donc, j'ai eu 900 euros, elle tournait. Je l'ai fiabilisé en fait en changeant la dynamo par un alternateur. Puis j'ai retrouvé par contre là en Allemagne un side à 200 euros. Donc en final, j'ai un véhicule complet, un sidecar complet que j'ai payé 1100 euros.
Voilà. Et le side, c'est un peu particulier parce que en fait, il n'était pas vendu avec la moto, alors que la carte grise de la moto était sur le side. Donc tu as dû acheter un side en fait.
Toutes les Ish en fait sont prévues pour avoir un sidecar. Les attaches sidecar sont intégrées à la moto.
Puis c'est ce qui permet de tenir en fait sur la moto quand les rues sont trop bues. En fait.
C'est ça. Après, tu sais, les routes en Russie, elles sont souvent enneigées, donc ça glisse. Il vaut mieux avoir trois roues là, dans ces cas-là.
Et donc t'as trouvé ton side effectivement que tu vas devoir restaurer un petit peu.
Voilà, maintenant tout est fini en fait. Il suffisait à 200 euros en fait, la peinture a été refaite dessus, il suffisait juste de changer le pneu.
Donc, et donc tu l'as déjà attelé pneus, parce que t'as même un pneu d'avance maintenant sur ton side, tu vas pouvoir énormément rouler avec.
On m'a donné un pneu, donc ce sera l'occasion de faire pas mal de kilomètres.
Alors, et
donc
est-ce que tu l'as attelé, ça y est, c'est bon?
Non, alors là, je vais l'atteler demain, parce que j'ai changé mon pneu de side cette semaine, et c'est demain que je vais essayer d'accrocher la moto au side. J'appréhende beaucoup, parce que j'ai jamais conduit de side.
Ah ouais.
On m'a dit que ça se comporte plus comme une savonnette sur la route.
va doucement au début. Hein.
Ouais, il faut aller doucement, mais de toute façon, je pense que tu pourras pas aller vite.
Ouais.
Et de toute façon...
c'est un modeste 350 cm3, voilà, donc l'ensemble moto side, ça doit peser peut-être 250, voire 300 kg.
Oui. Il fait combien de chevaux?
13
chevaux. Ouais.
13. Donc je pense que ça va faire un bon 50 km/h.
Ouais. Mais c'est ça qui est aussi intéressant. Et du coup, par contre, ce qui est bien sur ce style de moto, c'est qu'effectivement, elle fait 13 chevaux, elle n'est pas forcément hyper puissante. Mais à l'époque, les concepteurs et les ingénieurs, ils pensaient aussi à l'entretien des motos et pas qu'à la facilité de les construire et que ce soit la merde après à entretenir. Donc en fait, tu as une moto aujourd'hui sur laquelle tu peux faire des transformations, très facilement et en fait la monter en puissance beaucoup plus facilement que les motos d'aujourd'hui.
Bah, en fait, l'origine de Ish, ils ont piqué une moto. En fait, les Allemands ont gentiment apporté des motos pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont copié la DKW NZ350 et ils ont gardé ce moteur. Et ce moteur, en fait, de 1945 à 1992, reste à peu près le même. Ils ont changé quelques petites pièces d'un modèle à l'autre. En fait, les motos sont plus ou moins similaires. Et donc, je sais que je peux mettre des pièces plus modernes pour augmenter le taux de compression et justement augmenter la puissance du moteur sans changer le style de la bécane. Mais moi, mon idée... c'est pas tant de gagner en puissance, c'est juste de réduire la consommation et de pas me traîner avec un side.
Ouais. Et donc justement par rapport à ça, donc t'as ton side, t'as ta moto qui va te permettre de rouler beaucoup aussi. Alors c'est marrant parce que dans le reportage d'avant, on disait qu'en 1960, les jeunes ont abandonné la moto pour prendre des petites voitures pour aller sortir leurs copines. Et t'es en train de faire l'inverse, puisque t'as acheté une vieille moto en mettant un side dessus et avec laquelle tu réussis à sortir ta copine jusqu'à l'amener même ici aujourd'hui. Donc tu vois que les temps changent, mais tout est un éternel recommencement. En fait, et cette moto,
mais
vous allez.
Il n'a pas encore mis le chauffage dans le side.
Non, mais rassurez-vous, c'est le seul ici à avoir un chauffage dans les studios, donc il s'habitue pour la moto. Et donc,
on va te le prêter, tu pourras le prendre. Avec.
Et donc, avec Taïch, en fait, tu as prévu de faire un énorme tour, alors pas encore vraiment défini, mais peut-être soit aller au village du Père Noël pour aller le rencontrer, parce que tout le monde sait qu'il existe vraiment. Et,
en Finlande, c'est ça.
Voilà,
ah oui, et,
ou alors Saint-Pétersbourg, donc pour la ramener dans ses terres ancestrales. et ça, tu es en train de le préparer et c'est assez amusant. Tu disais, la moto n'est pas très puissante, il va y avoir des milliers et des milliers de kilomètres à faire et tu vas rouler à la vitesse de Claude Duru quand il fait le tour de France et d'Europe avec son 50, en fait.
Oui, avec sa mobilette, oui.
T'as du temps.
Il y a du temps. Bah, en fait, j'irai à la même allure qu'une mobilette, mais avec le confort en plus. Parce que là, au moins, dans le side, j'ai la place pour mettre les affaires. Éventuellement, un petit chauffage à gaz, c'est vrai que ça serait pas mal.
Ouais,
c'est pas de refus.
De quoi dormir, de quoi manger.
Dormir et manger, ouais. Puis surtout emmener quand même quelques pièces de rechange, c'est pas mal aussi. Je sais que Claude Duru a eu quelques pannes et il a dû se faire livrer des trucs.
Se faire livrer, ouais. Et l'avantage, c'est qu'il était plutôt pas très loin. Donc, effectivement, il est très suivi, Claude. Donc, dès qu'il a une panne quelque part, il y a 10 personnes qui arrivent pour l'aider. Tu vas pas tout à fait avoir certainement cette facilité-là, je pense.
Mais t'as prévu combien de temps alors
En fait, c'est simple. Rien n'est défini actuellement parce que ce que j'ai fait. Alors là, moi, ma priorité quand j'ai fait ma rentrée universitaire, c'était de trouver un emploi étudiant. Une fois que j'ai trouvé, ben là, régulièrement, je mets de l'argent à côté. Et en fait, quand j'aurai fini, quand ce sera les vacances, je vais dire, tiens, avec tant d'argent, je peux faire tant de kilomètres. Et là, je tracerai mon parcours. Mais c'est vrai que j'aimerais bien partir soit vers la Russie, soit retourner en Laponie. J'y étais déjà allé en 2018 en voiture. Et j'ai trouvé en fait que c'était tellement sympa de voir des rennes aussi se balader en forêt et tout ça. Ce sont des coins un peu sauvages que j'aimerais bien parcourir en sidecar, tranquillement, juste pour voir en fait.
Ouais, ça change, ici c'est plutôt des rois en fait qu'on a en ce moment. Donc effectivement, voir des rennes, ça permettra de changer un petit peu du paysage d'ici. Donc,
c'est la galette, c'est déjà la galette, on tire les rois, c'est ça,
ça doit être
donc
ça,
voilà. Bah écoute, super,
et
c'est assez amusant par rapport à Sidecar d'ailleurs, et quand on préparait, on en discutait. Donc maintenant, tu as ton side, et tu as déménagé il n'y a pas très longtemps pour arriver du côté de Landa, et tu habites la rue des sides en fait.
Ouais, bah en fait, autour de moi, dans un rayon vraiment de 5 km, il y a plein de gens qui ont des sidecars. Il y en a un justement à Landa, c'est un type fabuleux, il est venu en fait en France avec une espèce de voilier depuis le Canada, et il a plein de sidecars russes chez lui. Juste à côté, à Beuvry, il y en a qui ont des sidecars français, des BFG, des MF, des Ratier. Pareil, à Orchy, il y en a d'autres qui collectionnent des sidecars BFG. En fait, depuis que j'ai un sidecar, je rencontre que des gens qui ont des sidecars.
On n'aurait jamais imaginé que Landa soit aussi célèbre et attire
les
des gens d'aussi loin.
Les sidecaristes du monde.
Parce qu'il faudrait peut-être préciser que c'est quand même une petite commune... pas très loin de Lille.
Pas très loin de Lille, au sud de Lille, ouais.
Puis même pas loin, il y a la Cloute. Quand je vais à la Cloute, pareil, c'est aussi un endroit pour rencontrer des sidecaristes. Vraiment, dans un petit coin, il y a plein de gens en sidecar.
Peut-être parce que c'est la Cloute à côté que les sidecaristes sont allés là, d'ailleurs.
Là, on tombe dans l'international. La Cloute célèbre.
C'est en Belgique.
En Belgique
le relais motard.
Ouais, c'est un relais motard.
Ouais.
Bon, ok,
depuis
super.
Trois générations.
Bah écoute, on aura peut-être l'occasion un jour de faire un petit reportage spécifiquement sur tous ces sidecaristes de la région, y compris le Canadien. Là,
un phénomène étrange qui se passe.
Ah ouais, ça serait un bon sujet. Ouais. On l'a déjà fait, mais c'est vrai que ça serait intéressant.
Voilà, on pourra aller sur place, comme ça on les aura tous, ils n'auront pas besoin de venir ici.
Ce que je trouve intéressant avec les gens en fait, que je rencontre en sidecar, c'est qu'on n'est pas vraiment sur une mentalité motarde. C'est pas des gens vraiment qui sont 100% intéressés par la moto, c'est juste des gens qui ont un sidecar et qui veulent voyager. Mais c'est juste le sidecar dans l'aspect pratique de la chose. C'est pas des gens qu'on va régulièrement rencontrer vraiment dans des rassemblements purement moto et tout ça. C'est vraiment des gens qui partent.
Ouais, c'est pas forcément des gens qui vont faire une petite sortie moto comme parfois certains groupes de motards ont fait une petite sortie pour rien, juste pour rouler. Eux, c'est plutôt avec un but.
Avec des motos qui brillent, c'est ça que tu veux dire?
Avec des motos qui brillent au moins, parce que tu sais, à force de rouler avec une moto qui brille, elle est beaucoup plus mate.
Moi, j'aurais pas imaginé le côté pratique. Tu aurais parlé de l'attirance pour le modèle, côté typique un peu du voyage, mais côté pratique...
C'est le côté pratique de la remorque en voiture quand on part et où on se dit effectivement comme ça on n'est pas limité à prendre et c'est un petit peu ça en fait avec le side. On aura en tout cas l'occasion de partager largement avec eux quand on les fera venir et qu'on aura l'occasion de partager leur passion.
C'est vraiment intéressant de parler à un sidecariste parce que tu ne parleras pas moto, tu parleras vraiment voyage.
Oui, tu parles quand même moto ancienne, certains modèles. On parle pas de... Ça ne s'adressait pas à tous les sidecaristes.
Ah.
Non, mais quand tu parles de ton voyage, quand tu l'envisages, ne serait-ce que tu auras le temps de regarder le paysage, c'est ça?
Oui, c'est ça.
On peut te retrouver donc sur YouTube,
l'explorateur à moto. Maintenant, il y a mieux que ça, il y a un site internet, c'est l'exploratoiramoto.com, où il y a tout qui est remis dessus, d'utilisation.
Et ben voilà, donc on invite nos auditeurs à aller sur internet, consulter le site de l'explorateur à moto, Quentin.
Voilà, tout à fait.
Allez, un petit morceau de musique.
Mm-hmm. son, but you look sick enough to die. You sent me to the camp, the doctor. He examined me from head to toe. He said, I don't know what's wrong with your son. My x-ray just won't show. I cried, angel of mercy, won't you please look down on me? Right, angel of mercy, a little mercy is all I need. They cut my lights off this morning, sent my furniture outdoors. I was listening to the weatherman a while ago. He said it's gonna rain and snow. I've got a pneumonia. My baby's down with the flu. My whole family's got a malnutrition. I don't know what to do. I cried, angel love mercy, won't you please look down on me? I cried, angel love mercy, a little mercy is all I.
Il y a de la bonne musique hein, quand même sur Radio Campus, mais c'est normal, c'est le magazine de la moto qui kick un coup tous les dimanches. Et on va rester dans la moto ancienne avec Louis Guy, secrétaire des Caïmans. Eric, tu connais les Caïmans, ça veut dire
oui.
Quoi Caïmans?
Bah, je connais d'autant plus maintenant que Louis Guy est avec nous et que j'ai eu l'occasion de longuement discuter avec lui la semaine dernière.
Et l'acronyme alors veut dire quoi?
L'acronyme de
Caïmans.
De Caïmans, bah, il va nous raconter ça donc, juste après, dès qu'il nous aura lâché les mains qui nous mordent depuis tout à l'heure. Et donc Louis Guy, effectivement, secrétaire des Caïmans et officieusement bras droit du président, hein, mais ça, il ne faut pas trop le dire. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu finalement ce que c'est que le Caïmans. Caïmans, beaucoup de gens connaissent. C'est une association, un club quasiment millénaire. Hein,
parce que millénaire.
Ça fait 25-30 ans que ça existe.
Du siècle dernier.
Du siècle dernier. Donc, qui est hyper connu, avec une particularité aussi, qui est très rare dans les clubs, c'est que c'est le même président depuis la Constitution.
Depuis 1000 ans.
Donc depuis 1000 ans,
président à vie. Ouais.
Président à vie. Et donc le Caïman, donc vous avez créé ça à l'époque sur les vieilles motos, hein, effectivement.
Oui, bah moi j'y étais pas.
Hein. Toi tu n'y étais pas, oui, ça fait une dizaine d'années.
C'était en 1994,
ouais.
Donc par un groupe d'amateurs de motos anciennes, qui était, disons, très calé dans la partie. Hein. Il y avait des grandes pointures.
C'était l'époque des Triomphes.
Tout à fait. Et c'était très, très branché Triomphe anglaise, etc. Quoi. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je roule en BM. Mais, c'est...
Personne n'est parfait, tu sais.
Non,
moi, je roule en Harley.
mais donc, en fait, pour expliquer, il a été créé, le club, en 1994. Et à l'époque, ils ont créé la revue Chronique Moto. Donc, ah ouais. qui n'existe plus aujourd'hui.
Donc, c'est l'éditeur de la revue Chronique Moto.
Ouais,
hein.
Tout à fait. Et donc, c'était quand même assez important à l'époque.
Et donc, le fameux président qui se fait appeler, enfin, que tout le monde appelle le 4000, hein, c'est ça ?
4000, oui.
Donc, 4000, pas parce que quoi, d'ailleurs, 4000 ?
4000, parce que, parce que le concessionnaire de l'époque à Dunkerque, qui lui avait vendu sa première Triomphe, sa première bonne ville, il lui avait dit tu dépasses pas 4000 pour le rodage. Mais quand il passait devant chez lui, il était toujours à fond et le concessionnaire il criait 4000
pas plus. Donc voilà, donc il en a cassé on sait pas combien, mais l'avantage c'est qu'il roulait pas en BSA, donc ça allait. Donc aujourd'hui il y a eu beaucoup de membres effectivement dans cette association. Il y en a 45 à peu près aujourd'hui, donc oui, quelqu'un de connu ça. D'ailleurs, puisque vous avez fait la chronique motarde à l'époque et la chronique de la moto, hein, et aujourd'hui vous avez Bloz, donc le dessinateur qui
tout
fait,
à fait
des
tout
BD
à fait.
En fait qui fait partie de l'association aussi.
Ouais, tout à fait, Bloz est chez nous. Oui.
Et il vous a fait déjà une BD spécialement sur les Caïmans ?
Ah non, pas encore, mais il nous gratifie de temps en temps d'un dessin pour, par exemple, le bus pour Kempton Park.
Pour Kempton, etc. Bon, on lui fait officiellement la demande, donc aujourd'hui.
Et il a fait un dessin de 4000 aussi déjà.
Ouais, ah oui, ouais, ouais, moi ça, il n'en est pas au premier. Il en a fait un paquet. Et puis il y a celui qui est dans mon dos, là.
Magnifique.
Sur ma veste, c'est un dessin qu'il a fait et que j'ai repris.
Aussi bien sur Facebook que sur ton,
voilà, blouson.
Ok, donc par rapport à ça, bon, bah, vous faites plein de choses avec cette association. Comme je disais tout à l'heure, votre QG, il est autour du monde à Bolzel, hein, entre autres.
Alors, le siège est à l'adresse d'Alain Delfly, donc à Dunkerque. Notre QG pour les réunions, c'est effectivement l'estaminet Le Tour du Monde à Bolzel.
Voilà, qui est estaminet, un mini-musée, et, dont on reparlera peut-être plus en avant un jour. Et c'est là aussi que vous faites vos quatrièmes dimanches du mois sur la place de Bolzel.
Voilà,
donc un
tout
petit
à
peu
fait.
Comme avant Brochy, le deuxième, où vous avez le quatrième.
Voilà, c'est-à-dire que on a pris la quatrième pour dire d'espacer un petit peu avec Vambrochy. Et la première commence en avril. Et la dernière, pour l'année prochaine, terminera en octobre. Cette année, dans le calendrier Kikinkou, on a noté jusqu'à novembre.
Donc vous êtes obligé de tenir jusqu'à novembre.
On est obligé de tenir jusqu'à novembre. Mais l'année prochaine, ce sera donc d'avril à...
Ouais, quand il fait un peu meilleur, en fait.
À octobre. Bah, c'est-à-dire qu'on a quand même eu, même pendant l'été, quelquefois des dimanches où c'était le grand désert. Hein.
Et vous faites quoi ? Vous vous réunissez entre membres, mais le public peut venir aussi,
c'est
faites une balade.
C'est ouvert à tous.
D'accord.
À ceux qui ont des motos modernes, on les invite.
Non, ils ne brûlent pas les gens, ils brûlent les motos.
Non, non, puis on invite ceux qui ont des cyclos, on invite ceux qui ont des motos modernes.
Est-ce qu'il y a deux ou trois roues ?
Tout le monde. En fait, il y a quand même beaucoup de collectionneurs qui, le dimanche, quand ils viennent de loin, roulent en moderne. Hein, parce que pour faire 70 ou 80 km pour aller prendre un café ou une bière avec des copains sur la place de Bolzel, c'est quelquefois plus pratique de prendre une moto moderne.
Oui, tout à fait. Et vous êtes aussi d'ailleurs co-organisateur des Belles Mécaniques pour préparer la sortie en fait pendant les Belles Mécaniques.
Alors, pendant les Belles Mécaniques, nous organisons la bourse. Donc la bourse aux pièces, ça c'est organisé par mon président qui s'en occupe. Et nous organisons une balade moto et une balade cyclo. Au début, c'était mélangé, mais c'est pas possible. Les cyclos ne roulent pas assez vite. Et donc, on organise deux balades en même temps. Hein, ils s'en vont de chacun de leur côté. Et puis,
d'accord. Donc, voilà. Quentin pourra faire celle en cyclo pendant que les motards feront celle en moto.
Mais donc, Quentin, je pense qu'il a fait celle en moto cette année.
Donc, des balades où tout le monde peut aller. Bon, limité à une cinquantaine de personnes, c'est parce que pour la légalité des choses, c'est toujours plus pratique quand on est moins de 50. Voilà. Et après, on compte pas forcément, mais en tout cas, il y en a une cinquantaine de personnes. Et donc, tu parlais des bourses, effectivement, là, juste maintenant, vous organisez les bourses de pièces, hein, que les choses soient claires. Et donc, vous êtes fan de ça et vous y allez pas mal, vous sortez beaucoup, vous allez en Angleterre aussi
pour faire. Alors dans une année normale quand il n'y a pas le Covid, tous les ans on organise un bus qui va pour aller à Kempton Park. Donc pour ceux qui ne savent pas, Kempton Park c'est dans l'ouest de Londres, à côté de l'aéroport d'Heathrow. Et on peut y aller en bus sur une journée et revenir dans la soirée.
Et depuis le Brexit,
c'est compliqué.
Il faut spécifier, donc il faut un passeport.
Ah tout à fait, j'allais y venir. D'abord, pour l'instant, on ne sait pas comment on peut aller en Angleterre sans remplir certaines conditions. Donc pour l'instant, on évite, mais on compte pouvoir le faire en 2022 pour le mois de mai. Mais ce que j'insiste beaucoup, et ça c'est, de toute manière je vais insister sur tous mes messages, que à partir du 1er octobre la carte d'identité n'existe plus pour les Anglais. Maintenant c'est un passeport national qu'il faut avoir. Et mon président vient de passer à l'acte, il a montré l'exemple, il va recevoir son passeport.
De se faire faire un passeport. Ouais.
Donc voilà, on n'ira plus en Angleterre sans passeport.
Voilà, mais vous irez quand même parce qu'il n'y a pas de raison et c'est pas un passeport qui va nous empêcher d'aller voir ce genre de choses.
Je veux bien, c'est sûr.
Parfait, nickel.
C'est ouvert à tout le monde le bus là.
Ah tout à fait, tout à fait.
Les gens intéressés, ils tapaient, ils réservent.
Le bus, il faut faire vite parce que ça se remplit vite. Il y a 50 à 60 places, ça dépend des bus, mais on arrive à remplir des bus de 60 places. Mais c'est ouvert absolument à tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas de moto, s'il veut.
S'il veut venir, il est bienvenu. D'ailleurs, de toute façon, on ne prend pas les motos dans le bus et on ne pourra pas prouver qu'ils n'avaient pas la moto.
Par contre, les gens qui achètent des pièces là-bas,
ils reviennent avec.
Ils peuvent revenir avec dans la mesure de
la place de la soute.
De la place de la soute, oui, tout à fait.
Ok, parfait. Et donc là, dans les jours, les semaines qui viennent, il y a des choses qui sont prévues chez vous, fin octobre d'ailleurs, le week-end prochain déjà.
Donc alors, ce qui se passe, c'est que nous participons à des manifestations organisées par des clubs amis, comme le motoclub de la Brelle à Saint-Quentin-la-Motte, dont
on va en parler tout à l'heure.
Les vieilles soupapes de l'Alleu, dont je t'ai donné les éléments tout à l'heure.
Qui est le 7 novembre.
Qui est le 7 novembre. Donc le 31, il y a une bourse à Voincourt, et là, nous y participons, mais c'est à titre personnel.
Pas en tant que représentant officiel du Caïman,
on n'est pas là. On représente pas un stand de club. Moi, j'y vais parce que j'ai des choses à vendre et mon président, pareil.
Oui, et puis des rencontres à refaire là-bas aussi et passer des bons moments.
Ce sont tous des amis ou des copains.
Ouais, voilà. Parce que c'est ça aussi qui est caractéristique, c'est que vous êtes une bande de copains. Vous allez dans les rencontres aussi rencontrer des gens.
Bah là,
c'est pas que de la moto, c'est de la rencontre humaine.
Moi, j'y vais avec le camping-car. On va dormir là le soir. La veille, tout.
Il y a combien de places déjà dans ton camping-car?
Ah, il y en a qu'une. C'est un fourgon, et même ma femme ne vient pas avec moi parce qu'elle estime qu'il n'y a pas assez de place.
Ah, donc tu as fait exprès d'acheter un petit camping-car, hein. C'est noté. J'espère qu'elle n'entendra pas l'émission. Donc.
Oh bah. Il n'y a pas de problème.
Ok, et donc, juste pour en finir, une petite particularité du président, on en parlait juste tout à l'heure, c'est sa passion pour Steve McQueen.
Oh, c'est plus que ça.
C'est une folie.
Oui, c'est un sacerdoce.
Ah, d'accord. Et donc il a la majeure. Enfin, pas les motos qui ont appartenu à Steve McQueen,
mais il
s'arrange pour avoir énormément de motos.
Il a une collection, une collection de modèles de motos qui ont été utilisés par McQueen.
Il a même le sosie, le mannequin.
Il a un mannequin pour mettre sur les motos quand il fait des expos. Mais il a des tableaux, il a des... C'est inimaginable. Il est toujours à la recherche en permanence sur Internet d'objets liés à McQueen.
Donc si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à le contacter directement, il est preneur. Et on aura l'occasion d'en reparler une fois. Bon, merci beaucoup Louis-Guy d'être venu nous voir par rapport au Caïman.
Et on retrouvera les infos du Caïman dans le calendrier qui sortira début janvier.
Dans le calendrier et sur les sites, effectivement.
Je voudrais quand même mettre l'accent sur un projet.
Vas-y, vas-y.
On a déjà fait un voyage au musée de Sammy Miller en Angleterre. Et on souhaiterait en refaire un. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Mais pour l'instant, c'est un... Alors, ça ne se fera peut-être pas en 2022, mais ça se fera d'ici 2023, ça c'est sûr. Mais on va voir comment on peut...
aller jusque là-bas. Et
le... j'ai pas eu le temps de parler du bus du mois de novembre. Cette année, il n'y en a pas. Mais tous les ans, on organise un bus pour aller au salon Moto Légende à Vincennes.
Ouais.
Ça, c'est vers le 20 novembre. Et après, on participe. Alors tout ça, ça a été effacé avec le Covid. On participe, là, on a un stand aux coupes Moto Légende à Dijon. Mmh. Et là, on expose des motos. Bon. Donc ça, c'est fin mai. Normalement.
Donc pour 2022, ça va être bon. Hein.
Donc 2022, il y a plein de choses, ils sont partout. Ouais. Donc soit en tant que Caïman, soit en tant que membre simple, mais en tout cas, vous êtes partout et on ne manquera pas de rappeler les différents événements d'ailleurs tout au long de l'année prochaine.
Ouais, ils reviendront nous en parler.
Et, ça sera avec plaisir effectivement de te recevoir à nouveau par rapport à ça. Merci.
On va, beaucoup. On va passer un petit morceau de musique et on se retrouve juste après.
I went down to the crossroads.
va rester dans la moto ancienne avec Serge, le président depuis 32 ans du Motocyclette Club de la Brelle. Tu es avec nous, Serge ?
Oui, je suis avec toi, oui.
Ouais, on t'entend super bien en plus, formidable. Alors papa, Serge organise à Wincourt dans la Somme une bourse d'échange ?
Voilà, bonjour Serge, oui. La 30e,
bonjour.
La 30e bourse d'échange, toujours le dernier octobre, dernier week-end d'octobre, pardon, quand il n'y a pas le Covid.
Oui, 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 31 octobre, ça tombe le 31 octobre, ça tombe toujours au changement d'horaire.
D'accord, donc, il faut en tenir compte.
Voilà, si...
Donc il y en a toujours qui arrivent en retard, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas changé l'heure de la montre.
Bah, pour nous qui se couchons tard et se levons de bonne heure, ça nous fait dormir un petit temps en plus quand même. Hein, parce qu'on accueille des exposants déjà dès le samedi. Donc, et on organise un petit repas ensemble pour familial, quoi, disons, pour avoir un bon moment.
Et c'est ce qui motive Louis Guy du Caïman à venir dès la veille au soir.
Voilà, oui, oui, oui. Malgré notre grand âge quand même, parce qu'on commence à vieillir, c'est vrai qu'on... Mais bon, c'est... Donc la bourse, on l'a commencé il y a 30 ans, on a commencé par une petite bourse dans mon village qui s'appelle Saint-Quentin-la-Motte. Après, nous sommes allés au Tréport, puisqu'on est dans la région du Tréport. La salle, il y a eu trop de contraintes à mettre des moquettes sur le sol et tout. Donc on a retrouvé à Wincourt une salle où ils faisaient des manifestations des usines pour vendre du matériel industriel. Malheureusement, maintenant, c'est fini. Donc on profite de cette grande salle où c'est qu'on peut laisser... les remorques, tout ça, on rentre avec le camion, c'est formidable, quoi.
Et c'est à seulement à 10 km du Tréport.
C'est, oui, à 10 km du Tréport, pas loin de l'autoroute Calais-Rouen.
Donc cette bourse d'échange, elle concerne les motos, autos et miniatures rétro.
Oui, parce que bon, notre but c'est faire la moto, mais bon, comme on habite près de la mer, on peut faire qu'un demi-cercle. Donc on s'est lancé avec, comme on a des amis en voiture qui m'a amené des pièces, tout ça, on a dit on va faire un... Maintenant qu'on a de la place, on va faire tous ensemble, quoi, cette manifestation-là.
Et donc, sur l'affiche de la manifestation, c'est indiqué que Chambrier, père et fils, sera présent. Donc, c'est une référence pour la moto française.
Ah,
depuis...
Ce n'est pas un distributeur de boissons.
Ah non, non.
Tu peux nous préciser, Serge, pour Luc qui vient aux infos.
Chambrier, oui. Père et fils sont des pionniers de la refabrication de pièces pour nos motos. Hein, ils fabriquent les roues, des pots d'échappement, des manettes, tout ça, des pneus qu'on ne trouvait plus. Et ça fait un rebond dans la moto ancienne. Et bon, maintenant, il y a beaucoup plus de professionnels, mais avant, c'était un peu juste, il y a 20 ans.
Eux, sur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais ils ont un site internet qui est très actif où justement il y a tout le catalogue de ce qu'ils peuvent faire.
Moi personnellement, bon, j'ai une Triumph de la guerre 14, je ne trouvais pas de roues, c'est des jantes à talons, je voulais garder l'origine. J'avais pas les moyeux. En Angleterre, les moyeux, c'est impressionnant le prix. Et là, il m'a fait mes deux roues sur modèle d'une existante.
Ouais.
Donc ça nous permet de rouler, quoi.
Ah, c'est précieux.
Bah, vaut mieux des roues, hein, pour rouler sur la moto. Ouais, c'est ça.
Mais, donc, oui, oui, oui.
pour la bourse, qui est précieux aussi, l'entrée et l'emplacement sont gratuits.
Ouais. Comment vous faites? Alors,
comment qu'on fait? On veut rester l'esprit motard. Donc on se récupère sur la buvette.
Ah et oui, c'est ça l'esprit motard.
Avec une bonne connaissance du motard, surtout du motard ancien.
Et on fait une comment on fait de la restauration. Il y a une équipe qui va faire de la restauration, des frites, de saucisses, tout ça. Donc ça nous permet d'avoir des fonds pour pas payer, faire payer les exposants et les visiteurs.
D'accord, parce que la salle, vous la louez, c'est ça ?
La salle, on la loue, donc on reste dans l'esprit motard, donc l'argent pour une association, c'est beaucoup de choses, mais il ne faut pas rester non plus borné à faire que du bénéfice. Quoi qu'on fait du bénéfice quand même, hein, mais on se donne du mal pour faire quelque chose. Par contre, on demande un chèque de caution hein, de 20 euros, qu'il y a beaucoup d'exposants qui nous le laissent.
Ah oui, ils vous l'offrent.
Ils nous font un don, quoi. Donc, ils sont conscients qu'on a besoin quand même de...
Un peu de fond, ouais.
D'argent pour vivre, quoi.
C'est ça aussi l'esprit motard.
C'est ça aussi l'esprit motard, ouais. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas que l'argent.
Non, bah non, heureusement.
Non.
Et le club est très ouvert aussi. Pour l'adhésion, c'est toujours avec un prix très modique. Et oui. Ça ne peut qu'intéresser les amateurs de moto et de mécanique.
Parce que bon, nous, on voudrait bien que quand même, on a plus de 60 ans. Hein, on voudrait bien avoir un peu de jeunes. Hein, on voudrait monter une section mobilette hein, pour pouvoir mettre le doigt dans l'engrenage. Mmh. Nous, beaucoup des membres du club ont eu des 125 et ça leur a plu. Ils ont passé leur permis et puis maintenant ils roulent en moto plus grosse quoi. Donc ça évolue les esprits aussi que la moto ancienne. C'est bien quoi. On roule, on découvre des paysages. Nous on a fait des manifestations. On a été presque dans tous les coins de la France, même à l'étranger. On a été deux fois en Angleterre, visiter le musée de Sammy Miller il y a une trentaine d'années. On avait commencé par ça. Et on organise aussi les journées découvertes avec un coup on avait fait avec le Gavap, un coup on avait fait avec le Caïman.
Et là, c'est au mois de juillet.
Oui, ce mois de juillet, oui.
Traditionnellement. Mmh. En fait, voilà, l'activité du club est rythmée par des rendez-vous comme ça, traditionnels. Donc, fin octobre pour la bourse, journée découverte. Est-ce que vous faites toujours la balade des frères Caudron ?
Ah oui, toujours les frères Caudron, oui.
Ouais. Ah, c'est génial, ce qui m'a permis de découvrir... Je dois reconnaître mon inculture, hein, l'histoire de ses frères et leur importance dans la région. Et après, bon, leur devenir hein, dans cette vallée de Lyon dont nous a parlé notre premier intervenant, Fabrice Folis. En tous les cas, à 10 km du Tréport, super balade à faire en espérant que le temps sera beau. Hein.
Et puis, oui, en espérant que.
Et de toute façon, la bourse fait sa pub par elle-même, hein, parce que c'est une institution et elle est précieuse pour tous les amoureux de vieilles mécaniques.
Et donc, c'est le 31 octobre, de 8h à 17h, à la salle polyvalente de Voincourt, à 10 km du Tréport. C'est ça ?
Voilà, c'est ça même.
Oui. Entrée et emplacement gratuit. On voilà, peut donner un numéro de téléphone ?
Oui, vous pouvez donner ce numéro de téléphone-là, il n'y a pas de problème.
Donc moi j'ai le 06 67 37 94 18.
Oui, voilà, oui.
Et pour ceux qui voudraient envoyer un mail, c'est jolijolvilain@wanadoo.fr.
Oui. Et celui qui n'aura pas eu le temps de noter et peut retrouver tous ses renseignements sur la fiche qui est sur la page Facebook de Kikinkout et Toupal.
Enfin, formidable.
Vous travaillez très bien.
On te souhaite une bonne manifestation.
Et surtout un grand merci, Serge.
C'est moi qui vous remercie. Bon, on va être un peu fatigué, mais enfin bon.
Wow, c'est de la bonne fatigue.
On est jeune dans l'esprit.
Ok, merci.
Est-ce qu'il y a toujours... Il y a plus que 72 adhérents au club ? Ou c'est à peu près le nombre ?
Non, non. Non, c'est à peu près le même nombre.
Il faut que les jeunes, les jeunes puissent venir alors.
Oui, oui, les jeunes et puis beaucoup de qui prennent des initiatives. On n'est pas compte qu'ils profitent de la structure du club qu'on. Parce que bon, on a fait des rallyes à Courroie, de moto à Courroie aussi.
Mais plein de participants.
En Bédotti.
On peut retrouver l'actualité du motocyclette club sur internet facilement et on encourage tout le monde à aller y faire un petit tour. Bonne journée Serge. Encore merci.
On vous remercie bien. Au revoir. Allez,
au revoir. À bientôt.
I've been searching for treasure with my six string by my side. I traveled many miles, searching far and wide. Now all I wanna do is bring it all back. Treasure did not shine, not like silver, not like gold. It came to me like fire from deep inside my soul. All I wanna do is bring it all back.
Qu'on commence à arriver bientôt à la fin de l'émission, la musique se dynamise, ça c'est du rock and roll sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto. Et tout de suite on va parler de Robert Sexé, pour rester dans la moto ancienne, qui était reporter, motocycliste, photographe et surtout globetrotter, et c'est le premier qui a fait un tour du monde à moto.
Exactement, pas le premier effectivement explorateur, parce qu'il y a plein de gens qui ont roulé aussi avant lui, mais c'était le premier qui a réussi à faire un tour du monde complet en moto. Il est parti en 1926, hein,
donc 14
il y a des
juin.
Gens oui, qui ne savent même pas que l'année existait. Donc, et lui, il était déjà en train de partir pour faire le tour du monde avec Henri Andrieux et sur des motos qui sont des Gilbert Herstal.
Non, Gilet Herstal.
Gilet Herstal.
Des mots quoi?
T'as dit Gilbert.
Ah, Gilbert, non, donc des Gilet Herstal, pardon.
Et attention, il ne faut pas confondre Gilet Herstal qui est belge et René Gilet qui est français. C'est
voilà.
Deux marques de motos différentes.
Et Gilbert, donc il n'y a rien à voir là-dedans. Donc du coup, ils sont partis avec des Gilet Herstal et Henri Andrieux qui était lui d'ailleurs mécanicien chez eux. Donc on a Quentin qui a fait un énorme travail de recherche sur Robert Sexé qui va nous en parler.
Non, bah c'est vraiment de petites recherches, mais c'est vraiment fabuleux. Donc Robert Sexé, c'est un Français hein, qui est né en 1890, donc bien avant l'industrie de la moto, hein, qui, je le rappelle, arrive 5 ans après, en 1895. C'est un homme, en fait, qui sa vie se résume à voyager en moto. En fait, il est déjà, à l'origine, il est issu d'une famille aisée. C'est un homme qui a fait de grandes études. Et c'est en 1912, en fait, qu'il part faire ses études en Angleterre. Et c'est là-bas qu'il passe son permis moto et achète sa première moto. Une Rudge 500 cm3. Ce qui en 1912,
500.
En 500, c'est vraiment ce qu'il y a de plus gros. Il a vraiment acheté le summum de la moto. Et en fait, vraiment, sa vie motocycliste commencera en 1914, où il a commencé par de la compétition de moto et devient aussi journaliste pour une revue de moto anglaise. Puis après, éclate la Première Guerre mondiale, où il a rejoint un camp d'aviation en tant que motocycliste. Alors là aussi, c'est sympa de voir ce qu'il a fait. Bon, il a fait quelques missions en fait en tant que motocycliste, mais il a aussi profité de quelques permissions pour aller voir les filles. il a profité un peu. Et c'est vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale où en fait, il va se mettre à commercialiser des motos, des anciens stocks de l'armée. Il reprend la compétition moto chez Sawyer Clapson. Et il va devenir journaliste dans un journal que je pense que tout le monde
connaît encore,
c'est Moto Revue. Et finalement, lassé de la compétition, Sexé commence son premier long périple en 1924 pour faire un Paris-Constantinople-Paris avec deux de ses compères. Et en fait, il fait sponsoriser ce périple par justement la firme belge Gilet Herstal. En 1925, il repartira avec ses mêmes motos hein, jusqu'à Moscou, où il participera à la course, le circuit des Soviets. C'est justement, ça a été un bon coup de pub en fait pour Gilet Herstal, qui repartageait justement tous les parcours de Robert Sexé. Robert Sexé aussi était un globe-trotteur photographe. Il a ramené plein de photos, il a fait plein de livres en fait. Tous ses récits étaient suivis vraiment à l'époque. C'était le globe-trotteur de référence de ces années-là. Mais vraiment, sa grosse aventure commencera justement en juillet 1926, où il part faire le tour du monde. Un tour du monde qui durera 5 mois et demi. Ce qui est en fait surprenant, c'est qu'il aura traversé vraiment tout le pays soviétique, en fait, toute la Russie, sur des routes et des pistes quasiment inexistantes, hein, sans carte, qui n'existait même pas.
Sans GPS ?
Sans GPS.
Quelle horreur. Et alors, comment c'est possible
avec une boussole.
Ouais. Ce qui est surprenant, c'est qu'on dit aujourd'hui que c'est pas possible que les vieilles motos, enfin les vieux véhicules, font pas de kilomètres. Mais ces motos-là, ils les ont tellement utilisées qu'elles ont affiché 150 000 kilomètres.
Oui, parce qu'ils ont continué à s'en servir même après leur tour du monde.
Même après, mais pour les utiliser chez eux, 150 000 kilomètres sur une moto de 1924, c'est pas rien. Hein.
Aujourd'hui, on fait un périple avec une moto et la moto, on la met dans un musée ou on la range au garage, alors que là, ils ont effectivement continué à s'en servir.
Bon, ils sont quand même tombés plusieurs fois en panne, hein, faut le dire. Hein. Ils ont poussé aussi leur moto pendant
un
moment.
Tu connais ça, ça fait partie du job des explorateurs.
C'est ça. En vrai, l'exploration à moto, les gens se comptent par milliers. En fait, c'est plus difficile de trouver, on va appeler ça des témoigneurs, des gens qui ont ramené des récits et des photos. Ce que Robert Sexé a fait, il a sorti des livres, des articles et tout ça. Et alors sa vie tourne un peu en 1931, il y a une crise en Belgique et Gilet Herstal ne sponsorisera plus les voyages de Robert Sexé. Mais c'est une marque française qui va prendre la relève, c'est Peugeot. Et il va faire vraiment beaucoup de voyages, encore de longs périples de plusieurs milliers de kilomètres avec des grosses motos Peugeot. Mais pas que. Le plus étonnant, c'est ce qu'il a fait en 1939. Il a fait un tour d'Europe de 15 000 kilomètres, mais non pas avec une moto. À l'époque, ça s'appelait une bicyclette à moteur auxiliaire. Donc on prend un 4 de vélo et on rajoute un petit moteur. La moto pesait ses 35 kilos, quelque chose comme ça, avec tous ses bagages dessus, et ne dépassait pas 30 km/h. Un cheval vapeur de puissance, et ben avec ça, il a fait ses 15 000 km à 30 km/h.
Voilà. C'est bien pour économiser de l'essence.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Il a surtout économisé beaucoup d'essence en montée parce que la moto ne pouvait pas grimper les côtes.
Donc il la poussait.
Il la poussait. Oui, parce que pédaler, non, c'était pas.
C'était pas son truc.
Alors malheureusement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a un peu mis fin à son style de vie. En fait, les constructeurs ne sponsorisaient plus de telles escapades. Puis après la Seconde Guerre mondiale, en fait, tout le paysage moto change. La moto n'a plus la même utilité. Et c'est pas pour autant qu'il a arrêté de faire la moto. Il a continué à faire de la moto, à voyager en France, et ce jusqu'à la fin de sa vie.
Plus pour son plaisir à ce moment-là que
pour son
faire
plaisir.
Des choses,
il faisait après-guerre, je crois qu'il a plus trop fait vraiment de reportages et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé au rallye des éléphants de 1962 à 1972. En 1972, il a 82 ans. Donc il est parti de chez lui pour faire plus de 1000 km sous la neige en moto. Vraiment, là, c'était un deux roues, hein, une DKW en 125. Par temps froid, et quelque chose que même moi, j'hésiterais à faire, parce que rouler sous la neige et par moins 0 degré, non, je...
Ouais. Ouais. Ou alors à moins d'avoir un trois roues effectivement avec un
et du chauffage
et du chauffage au gaz,
une carrosserie aussi au-dessus, ce serait pas mal.
Et ce qui est assez amusant, c'est que tout ce qu'il a fait du coup pendant sa vie, ce garçon, et son mode de vie, pardon, ça a quand même permis quelque part à Tintin de voir le jour, puisque effectivement Hergé, c'est plutôt il s'est inspiré en fait de la vie de Robert Sexé pour créer le Tintin, jusque. Et ça, c'est assez amusant, jusqu'au nom du chien de Tintin, Milou, qui était le nom du mécanicien de Robert Sexé.
C'est ça. Et d'ailleurs, la couverture du livre Tintin au pays des soviets ressemble très fortement à une photographie qu'a prise Robert Sexé. Et en fait, beaucoup de dessins dans le livre de Tintin au pays des soviets rappellent beaucoup au niveau du cadrage et de ce qui se passe, justement, des photos. Puis c'est le premier, en fait, à avoir témoigné du pays des soviets. C'est lui qui a vraiment été le correspondant des soviets.
Le premier qui en est revenu, tu veux dire, c'est ça?
Non, mais en vrai, il y allait beaucoup. C'est vraiment un pays qu'il adorait. Il a fait plein de périples là-bas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à Gilles Herstal d'exporter leur moto justement en URSS.
Et d'ailleurs, c'était un ami de Mikouline, donc quand il a connu en Russie. Et Mikouline, c'est celui qui a créé les moteurs MiG pour les avions. Donc en fait, c'était un monde vraiment qui se mixait beaucoup d'ailleurs à l'époque entre l'aviation et la moto dans ces années-là.
Et Robert Sexé a rencontré aussi Suzuki. Si Suzuki a vu une moto dans sa vie, c'est parce qu'il y a eu Robert Sexé.
Au Japon qu'il l'a rencontré.
Je ne connais pas Suzuki.
Il a rencontré aussi celui qu'on appelait Cannonball, le célèbre motocycliste recordman Erwin Baker. Il l'a rencontré aux États-Unis. Ah, formidable.
Il a vraiment rencontré plein de monde. C'est un type qui est fabuleux. Alors malheureusement, il n'y a pas longtemps encore, il y avait un musée sur sa vie. Il n'y a plus de musée. Il n'y a pas longtemps, il y avait un site internet officiel où on pouvait acheter des livres parce qu'il avait son ami Jean-Paul Schulz, qu'il a rencontré plus tard, est encore vivant. Malheureusement, ce site-là n'existe plus. Et en fait, j'ai peur que, en fait, on peut dire que Robert Sexé, c'est un patrimoine. Et j'ai peur qu'actuellement, c'est quelque chose qui tombe aux oubliettes. Voilà.
Bon, déjà, nous, on a travaillé pour ce patrimoine en parlant de lui aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, effectivement, le musée a fermé, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont réouvrir. Et puis, je pense que grâce à Tintin, il ne sera jamais oublié, ce garçon, quoi qu'il arrive, puisqu'on n'est pas là d'arrêter ce genre de choses. Donc, voilà. Et c'est amusant, et on en parlera d'autres fois, vous verrez. On a l'impression que c'est très ancien, tout ça. Oui, c'est très ancien, mais on aura l'occasion dans d'autres émissions. Mais il y a des femmes qui ont déjà fait des expéditions comme ça dans les années 1914, les sœurs Van Buren, qui ont énormément roulé en Amérique du Sud, etc. Et c'est amusant de voir que finalement, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais depuis très 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 longtemps, en fait, dès que la moto a existé, il y a eu ce genre de globetrotter-explorateur. Et comme tu le disais, Sexé a été quasiment le premier à venir avec plein de choses qu'on connaisse bien, mais il y a encore plein de choses à dire sur tous ces explorateurs en moto anciens et qu'on fera plaisir on aura plaisir de le faire avec notre explorateur contemporain, Quentin.
Le mois prochain.
Le mois prochain, voilà.
Très bien. On va passer un petit morceau de musique.
Razor!
Et avant de se quitter, papa, tu voulais nous parler d'une manifestation qui va se dérouler le 7 novembre à Le Quesnoy.
Voilà, on avait à cœur de relayer les informations concernant cette journée qui est organisée par le Vauban Passion Motoclub, donc Motoclub de Le Quesnoy, qui organise le 7 novembre son Téléthon motard. Et c'est une des seules manifestations qui organise pour l'instant, hein, en tous les cas.
À Tavourac, dans la situation sanitaire, c'était compliqué aussi.
Et ils ne pouvaient pas être à l'antenne aujourd'hui parce qu'ils étaient en repérage, justement, hein, pour cette balade qu'ils vont donc organiser. Une balade de 60 km, mais toute la journée va être festive. Et déjà, la formation a circulé, les gens ont réagi, les motoclubs amis aussi qui seront présents pour être nombreux à apporter leur participation. On demande en fait un don minimum de 3 euros. Après, c'est un appel à la générosité.
Plus, voilà. Et ces 3 euros seront reversés ensuite pour le Téléthon.
Il y aura un accueil chaleureux, comme toujours, avec le VPMC.
Et surtout au 7 novembre matin à 10h, il faudrait qu'il soit chaleureux parce qu'il va faire un peu frais quand même.
Donc, c'est café cognac.
Toutes les infos sont sur l'affiche, hein, qui est donc sur notre page Facebook.
Comment tu le trouves, notre page Facebook? Tu tapes Kikinkou sur Facebook et tu tombes dessus?
Normalement, oui, ça se fait sans problème. Et puis, donc, nous recevrons par contre le VPMC en novembre, parce que toute l'année est également rythmée par
les manifestations.
Les manifestations qu'il propose. Mais si vous êtes pressé de les rencontrer, ça peut se faire tous les premiers samedis du mois au local du club. C'est en plus dans un très beau bâtiment, le château Marguerite de Bourgogne, à Le Quesnoy.
D'accord. Voilà. Ils ont un site internet où on peut retrouver ces infos?
Oui, il y a donc un groupe accessible sur Facebook. Sinon, vous pouvez avoir le contact, c'est le 06 68 34 32 43. Toutes les cylindrées peuvent participer à cette balade. Bon, il y a, comme on ne l'a pas dit tout à l'heure pour Wincourt, mais il y a...
le port du masque obligatoire.
Aux arrêts.
En roulant, tu peux garder ton casque.
Respect des gestes barrières. Je ne sais pas s'il y a l'accueil, comme c'est en extérieur, c'est obligatoire. Mais aux arrêts, je ne sais pas. Voilà, donc, et il y aura de la musique, bref, ça sera...
Il y aura même de la soupe à l'oignon.
Ah oui, en restauration, pour se réchauffer.
Impeccable.
Ça sera bienvenu.
Okay,
voilà, bon. Donc rendez-vous le 4e dimanche de novembre et nous aurons Catherine, la présidente du club.
Du club pour en parler, ok. Bah, merci papa, c'était une émission bien fournie avec des invités sympas. Eric, merci pour ta participation très très efficace, n'est-ce pas? Hein? Merci Quentin.
Oui, merci de m'avoir reçu.
on va suivre tes aventures. On va dire aussi merci à Louis Guy. Hein, il n'a pas de micro, mais voilà, il va se pencher.
Merci de votre accueil.
Voilà, pour le caïman. Et on va bien sûr remercier Laurent pour sa programmation musicale de qualité, t'as voir, quoi. Hein, on va se retrouver dimanche prochain. Sinon, en attendant, ne loupez pas à 14h le Grand Prix de Misano, où on aura peut-être le sacre du premier pilote français en catégorie reine. Ça n'est jamais arrivé depuis la création du championnat en 1949. Donc ne loupez pas le Grand Prix tout à l'heure à 14h. Merci, à dimanche prochain. Au revoir.
Salut tout le monde.
Au revoir.